L'actualité des Alpes du Sud, 11 ans avant d'arriver à la barre d'un tribunal.
Août 2009, Anissa, une fillette de 11 ans, se noyait dans la Durance lors d'une sortie hydrospeed. Il aura fallu à ses parents se battre pour que trois professionnels soient jugés en première instance. Hier, la présidente du tribunal s'est excusée pour ce retard.
Les stations ouvriront à Noël, oui, mais sans les remontées mécaniques.
Pour le Premier ministre Jean Castex, il y a bien trop de risques sanitaires. Vive réaction dans le monde touristique et économique des Alpes du Sud. Désaccord aussi dans la sphère politique avec Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui lance l'opération Sauvons nos stations.
Et puis vous verrez que les projets vont bon train pour réhabiliter la caserne du quartier Bressan à Josier.
Existe aujourd'hui le projet de balnéothérapie, il n'en est plus question. La municipalité veut désormais y lancer le projet Culture de Liens. Météo.
Avec dès ce matin, quelques passages nuageux qui pourront venir contrarier l'ensoleillement sur les Alpes du Sud. Mais l'impression de beau temps devrait perdurer pour toute la journée. Les températures maximales pour cet après-midi de 10 à 14 degrés. Il aura fallu 11 ans pour que le procès après le décès de la petite Anissa arrive à la barre d'un tribunal correctionnel.
Cette fillette Anissa Wass est décédée noyée le 1er août 2009 lors d'une sortie hydrospeed à l'Argentière l'ABC alors qu'elle était dans les Hautes-Alpes avec sa colonie de vacances venue d'Étampes. Anissa, 11 ans, descendait la Durance quand une barre métallique située au fond de l'eau l'a bloquée, l'empêchant alors de remonter à la surface. Ils étaient trois assis sur le banc des prévenus hier au tribunal de Gap. Trois professionnels poursuivis pour homicide involontaire, 11 ans donc pour arriver devant la justice, Christophe Laurenceau.
Fait rare mais assez remarquable, la présidente Isabelle Defarge a tenu à s'excuser auprès de la famille d'Anissa. Des excuses au nom de l'institution judiciaire pour le retard qui a été pris lors de cette affaire. C'est la première fois que je juge une affaire délictuelle en première instance 11 ans après les faits, affirme-t-elle. En effet, ce drame est passé de cour en cour. En 2009, le parquet de Gap avait alors ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire. En 2012, un non-lieu général est rendu. Les parents de la petite victime font appel. La cour de Grenoble infirme partiellement le non-lieu et renvoie devant la justice la société River Club qui encadrait à l'époque cette colonie de vacances. Un pourvoi en cassation est alors déposé par les parties civiles. La cour de cassation annule le non-lieu en 2014. Un an plus tard, le parquet général de Chambéry requiert la mise en examen et le renvoie en correctionnel pour homicide involontaire. C'est finalement en 2018 que la cour d'appel de Chambéry renvoie cette affaire devant la justice gapençaise. En 2020, un véritable marathon judiciaire que les parents d'Anissa ont mené pour honorer la mémoire de leur fille, selon leur avocat, Maître Franck Nathalie.
Pour eux, c'était essentiel qu'on puisse enfin aborder d'une manière publique et sereine, mais en allant au fond des choses, la réalité de ce qui s'était passé le jour de ce drame et les conditions exactes dans lesquelles leur fille a perdu la vie. En ce qui les concerne, ils souhaitent que les responsabilités qui apparaissent de plus en plus évidentes soient mises en lumière par ces débats judiciaires, et que la justice puisse effectivement statuer sereinement dans cette affaire. Ils ne font pas ça par vengeance, ils font ça simplement par souci de vérité. C'est pour ça qu'ils se sont battus pendant ces 11 années.
Ce sont alors trois professionnels qui se sont assis ce jeudi sur le banc des accusés pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Gauthier B, le moniteur stagiaire qui encadrait la sortie, et Gérard B, le chef de la base nautique, et Didier L, l'ex-gérant de la société River Club. L'ancienne épouse de ce dernier comparaît également en personne morale pour représenter l'entreprise dont elle est désormais à la tête.
Merci Christophe.
Les stations ouvriront à Noël, mais pas les remontées mécaniques. C'est un compromis du gouvernement qui ne convient pas aux professionnels dans les Alpes du Sud.
Alors qu'il revenait sur les mesures d'assouplissement décidées par le gouvernement face à la seconde vague du coronavirus, le Premier ministre a donc dessiné à quoi ressembleraient les fêtes de fin d'année. Les stations ouvriront comme lieu de vie, mais pas comme lieu de ski. Jean Castex.
Nous avons estimé que la circulation épidémique, mais aussi la situation des hôpitaux dans les régions concernées, notamment, ne nous permettent pas d'envisager une ouverture pour la période de Noël. Quelle que soit l'importance des efforts que sont prêts à consentir les gestionnaires et responsables de ces stations, il ne serait en effet pas prudent de laisser se rassembler des flux très importants de population avec des activités susceptibles de solliciter par ailleurs les services hospitaliers. Il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermées au public.
Des discussions sont engagées pour indemniser les pertes de recettes, préparer au mieux la période de janvier, mais aussi régler la situation des saisonniers. Cela n'est pas suffisant pour les professionnels dans les Alpes du Sud. Jean-Marie Bernard, président du département des Hautes-Alpes, et Patrick Ricou, son conseiller départemental, président de l'Agence de développement touristique, estime que les messages d'alerte n'ont pas été entendus. Il demande au gouvernement de faire marche arrière sur cette décision et d'attendre le 15 décembre pour arrêter une position en fonction de la situation sanitaire. René Massette, quant à lui, président du conseil départemental des Alpes-d'Haute-Provence, voit cette annonce comme un désastre pour les vallées, un drame pour les professionnels du tourisme et les saisonniers. Les pertes liées à la fermeture des remontées mécaniques pourraient atteindre les 2 millions d'euros pour Pralou et le Val d'Alos.
Et certains ont pris la plume pour faire reculer l'exécutif, comme l'association des maires ruraux dans les Hautes-Alpes qui a écrit au président de la République.
Il semble injuste pour l'AMR d'interdire aux vacanciers la pratique du ski. Les élus rappelle par ailleurs que le tourisme, c'est la moitié de la valeur ajoutée créée dans les Hautes-Alpes. De la colère, c'est ce qu'a exprimé de son côté le président du comité de ski Alpes-Provence. Jean-Paul Carlian ne comprend pas pourquoi les remontées mécaniques ne prennent pas le même train que les commerçants, avec une ouverture assurée dès décembre. D'autres, par contre, veulent y croire encore, comme Serge Chevalier. Les maires ont écrit au Premier ministre pour lui proposer de faire de la station un lieu d'expérimentation, ouvrir uniquement pour les scolaires, les clubs et les détenteurs de forfaits de saison acquis avant le 15 octobre. Cela pourrait ainsi justifier l'embauche d'une partie des saisonniers. Une pétition a également été lancée sur la plateforme change.org.
Alors après Noël, Renaud Muselier veut aujourd'hui sauver les stations de ski.
Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rappelle que le ski représente 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 millions liés aux remontées mécaniques, mais aussi 15 000 emplois avec 12 millions de nuitées, dont 65% pendant les vacances scolaires sur les trois départements que sont les Hautes-Alpes, les Alpes-d'Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Eh bien, les Alpes du Sud sont le deuxième massif français avec 65 stations et centres de ski. C'est donc un Renaud Muselier remonté qui s'est montré face à la presse. Les arguments pour une fermeture sont mauvais, estime-t-il. Écoutez-le.
On nous explique que le risque sanitaire est trop élevé dans le cas des engorgements des hôpitaux potentiellement liés à la traumatologie ou au cas de Covid de touristes. Je me permets de vous montrer la courbe qui montre qu'au niveau national et encore plus au niveau régional, nous sommes sous la barre des 5000, comme l'a proposé le président de la République, en date du 12. Ça confirme parfaitement ce qui se passe dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des taux d'incidence qui se sont écroulés en moins de 10 jours. Dans les Hautes-Alpes, qui étaient à 295, nous étions à 750. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, nous sommes à 165, nous étions à 400. Et dans les Alpes-Maritimes, nous sommes en dessous de la moyenne nationale. Et avec des hospitalisations Covid, où il y a une réelle décrue, on est passé de 1343 hospitalisés avec 300 de moins et 426 patients en réanimation, qui est la première semaine de baisse conséquente avec 80 malades en moins.
Les socio-professionnels s'étaient aussi préparés. Ils avaient même présenté une 10e version du protocole sanitaire récemment. Le président de l'hémicycle marseillais a rappelé qu'une cartographie régionale va être présentée dans les jours qui viennent sur la base des eaux usées pour prévenir une semaine à l'avance les clusters, les foyers de contamination. Notez enfin qu'une nouvelle réunion devrait se tenir lundi entre les professionnels des stations et le Premier ministre Jean Castex.
Renaud Muselier de tous les combats, puisqu'un petit peu plus tôt, le président de l'hémicycle régional était dans les rues de Marseille.
Il se mobilisait pour soutenir les restaurateurs et les cafetiers, à ses côtés notamment le maire de Manosque, Camille Galtier, ou encore Daniel Margot, président de la CCI des Alpes-d'Haute-Provence, et Thierry Souêtre, président de l'UMI 04. FDSEA des Hautes-Alpes et des Alpes-d'Haute-Provence apportent aussi leur soutien aux restaurateurs. Le syndicat agricole rappelle que les agriculteurs et les éleveurs sont les fournisseurs de la restauration. C'est un débouché très important pour la FDSEA dans les Alpes du Sud. Les annonces du gouvernement ne sont donc pas acceptables.
Peut-être une bonne nouvelle au milieu, avec une aide exceptionnelle pour 6930 foyers des Hautes-Alpes face à la crise sanitaire.
Annonce de la préfecture ce jeudi. Dans le détail, il s'agit de 6930 foyers avec 7700 enfants à charge et 980 jeunes qui vont percevoir une aide au logement. Sur la région, 351 000 foyers vont bénéficier de cette aide du gouvernement. Elle se destine aux familles, aux personnes les plus modestes et aux jeunes de moins de 25 ans.
Dans le reste de l'actualité, des projets qui vont bon train pour réhabiliter la caserne du quartier Bressan à Josier.
Un lieu construit au 19e siècle pour abriter la filature de soie de la famille Fortoul. Le bâtiment avait ensuite été transformé en caserne en 1880. Aujourd'hui, il appartient à la communauté de communes de la vallée de Lubaye-Serre-Ponçon. Exit le projet de balnéothérapie. Il n'en est plus question aujourd'hui. La municipalité de Josier veut désormais lancer le projet culture de lien. Le but, réhabiliter cette ancienne caserne et valoriser les terrains adjacents tout en favorisant une économie circulaire. C'est ce qu'explique Chloé Ocelli. Elle est adjointe à la mairie de Josier.
Le conseil a travaillé et s'est penché sur la réflexion d'apporter une nourriture de qualité durable et locale sur le restaurant scolaire et au niveau de l'EHPAD. Et en parallèle de ça, les associations jeunesse ont des jardins pédagogiques et l'école aussi. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de travailler ensemble et d'apporter une meilleure qualité dans l'assiette. D'où est venue l'idée de maraîchage sur une partie de ces terrains-là. Maraîchage à destination donc des collectivités locales. Et puis après, le projet est à étudier. S'il y a plus de production, travailler avec des locaux en circuit court ou bien, c'est à étudier avec des restaurateurs locaux. On peut produire que sur une période de l'année, donc l'idée c'est de pouvoir transformer la production. Ce serait d'avoir dans le bâtiment existant une partie atelier de transformation conserverie qui permettrait de conserver, de transformer justement les légumes et les petits fruits pour pouvoir les utiliser tout au long de l'année.
La municipalité envisage également de mettre en place dans ce bâtiment un musée pour revenir sur l'histoire du lieu. Il s'agirait aussi de mettre en valeur l'agriculture locale et le pastoralisme. Une pépinière d'entreprise est aussi en projet, tout comme un centre de formation et la création de logements. Des études de faisabilité doivent donc être menées.
Le Tour du Queyras termine troisième du concours Mon Gère préféré.
Le verdict est donc tombé pour l'itinéraire de grande randonnée 58, Tour du Queyras, qui arrive finalement en troisième position après 3 semaines de vote des internautes sur le site mongere.fr. C'est celui du pays Grand Pic Saint-Loup qui remporte cette 4e édition du concours national. À la 2e position, on retrouve le GR de pays Tour des Baronnies Provençales dans la Drôme. Pour l'Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras, cette opération est une belle action de communication pour valoriser la destination et le département des Hautes-Alpes.
Alpes 1 Sport. Et Richard Jouve retrouve le chemin de la Coupe du Monde de ski de fond.
Alors qu'il s'entraîne désormais à Méribel en Savoie, le Briançonnais repart pour une nouvelle saison de Coupe du Monde et la manche inaugurale de Ruka en Finlande lui convient assez bien, comme l'atteste la 3e place décrochée l'an dernier lors du sprint classique. Le haut alpin essaiera donc de faire aussi bien ce vendredi à partir de 12h30. Le week-end se poursuivra pour le fondeur avec le 15 km classique samedi à 12h45 et la poursuite libre dimanche à 12h50. Autre haut alpin sur le pont à l'occasion de la reprise de la saison hivernale, même si le ski alpin avait repris ses droits en octobre à Solden. Cyprien Sarrazin participera aujourd'hui à partir de 17h50 au slalom parallèle de Lech en Autriche, la seule épreuve de la saison de Coupe du Monde pour cette discipline qui rappellera de bons souvenirs au dévoluard qu'il avait emporté en 2016 à Altabadia en Italie.
Enfin, un mot du Vendée Globe avec Damien Seguin qui remonte.
Le skipper briançonnais est 11e ce matin, il fait route vers le Grand Sud. Romain Attanasio, lui, est 17e.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.